Oui.
Est-ce que l'étude qu'on fait ici, l'étude journalière de la Gemara, par exemple, au Moussard, ça va nous renforcer dans notre émouna, ou il va falloir qu'on aille chercher nos réponses ailleurs? Par exemple, dans comment le monde fonctionne, dans la science, dans le soleil, tous les éléments naturels. Ou bien la Gemara, on va trouver nos réponses. Notre émouna va grandir avec la
Gemara. Il faut les deux. Donc la question, c'est la émouna. La émouna, la foi en Dieu. Est-ce que l'étude de Torah qu'on fait à la Yeshiva est suffisante? On va dire comme ça. D'abord, elle est nécessaire. Parce que l'étude de la Gemara, quand on étudie de façon assidue comme il faut, elle purifie. Vu qu'on étudie la parole d'Hachem, et vu que notre cerveau, tous nos méninges vont être super concentrés pour comprendre la parole d'Hachem, ça nous branche. Bien qu'on ne soit pas très conscient de cela, ça nous branche très fortement à Hachem. C'est magique. Quelqu'un qui va étudier quelques bonnes heures de Gemara, bien comme il faut, Be'iyun, en se concentrant, au bout d'un moment, il sent quelque chose de bizarre, normalement. Il sent une pureté. Il sent un bonheur. Il est rempli de quelque chose, d'une lumière, on va dire, comme ça, on va dire. Une lumière spirituelle. C'est une lumière extrêmement nécessaire, parce que c'est elle qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Maintenant, des fois, à cause de nos péchés, il y a des doutes. On a des doutes. C'est nos péchés qui font cela. Un des moyens pour casser ces doutes, c'est effectivement des réponses rationnelles aux questions qu'on peut se poser. Et là, on peut utiliser, entre autres, comme tu dis, la science. La science, comme dit Maïmonide, qu'il y a le mystère d'aimer Hachem, de le craindre. Comment on fait? Quand on verra, par exemple, la création, on verra à quel point j'avais ici un élève qui était ingénieur en biologie moléculaire, dans les tissus. Et comment il a fait Tchouva? Avec son microscope, et un infiniment petit, il voyait à quel point c'était précis, complexe, sophistiqué. Dans l'infiniment, il a dit, c'est pas possible. Hachem existe. On peut, rien qu'en analysant la nature, on peut comprendre qu'Hachem existe. Et c'est vrai. C'est vrai que tu regardes n'importe quelle création d'Hachem dans le monde, c'est extraordinaire. Si on n'a pas été trop touché par les théories tordues, évolutionnistes, etc., qui pullulent dans le monde, mais du point de vue, quelqu'un qui est pur dans son âme et qui regarde le monde, il est extrêmement beau et complexe, tout ça pour nous. C'est un grand cadeau. Prends des fleurs. Une plus belle création que ça. Ce Shabbat, j'ai dû aller à l'hôpital accompagner mon beau-père. Je suis venu à pied, presque 2 heures de marche. Sur la route, il y a les amandiers qui commencent à fleurir. Toute beauté, c'est extraordinaire. On est en plein hiver, d'accord. T'as des fleurs comme ça. Quelle beauté. Et le soleil sur la route, comme ça, qui te caresse le visage. Combien dire merci à Hachem? Voilà, alors ça suffit. Attends, tu veux plus? Quelqu'un qui a étudié un peu la grandeur du cosmos, quoi devenir dingue? C'est inimaginable comment le cosmos est grand. Inimaginable. Inimaginable. Aucun être humain ne peut imaginer la grandeur du monde. Et ça, la Kabbalah te dit, ce monde-là que nous connaissons en physique, c'est un grain de sable par rapport au monde supérieur. Et il y a une infinité de mondes supérieurs, avant d'arriver au nom d'Hachem, sans parler d'Hachem lui-même. D'accord? Et ce Hachem qui est tellement grand qu'on ne peut évidemment pas imaginer, vu que même le grain de sable, on ne peut pas l'imaginer. Il s'adresse à nous, il nous donne sa Torah. Il nous dit, viens. Toutes ces choses-là, c'est certain que ça grandit la personne. Alors, on peut avoir recours à l'observation du monde pour louer Hachem. Absolument. Quand on va en vacances, on a besoin de vacances, on va en promenade. Regardez, profitez de la beauté de la nature, c'est très beau. C'est ça ta question? Rambam dit qu'on a une preuve comme quoi Dieu existe. Comment? Parce qu'on voit que le Galgal, il tourne d'un mouvement infini. Le Galgal, c'est la roue. D'accord? Il parle des cycles qu'il y a dans la nature. C'est les cycles astronomiques. Tu vois que le soleil tourne, la Terre tourne autour du soleil. D'accord? La Terre tourne sur elle-même. Tu as les cycles de toutes les planètes. Infiniment petit. On voit que les électrons tournent autour des atomes. Tout cela d'un mouvement infini. Alors, pour pouvoir créer un mouvement infini, il faut avoir une force suffisamment grande pour pouvoir créer ce mouvement. Donc, il faut avoir une force qui est infinie. D'où la preuve qu'il y a Hachem. Maintenant, ça, c'est un moyen. La nature, l'histoire. l'histoire. Moi, c'est plus mon dada. D'accord ? Quand tu vois l'histoire du peuple d'Israël, Dieu existe. Un juif aujourd'hui juif, c'est un miracle ambulant. Comment ça se fait qu'on est encore juif ? Le Yabet, il écrit ça il y a 300 ans. Rabbi Yaakov Ben Tzvi Emdim. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Sidour Ben Yaakov. Sidour Ben Yaakov. Bet Yaakov. Il dit là-bas, Chaye Nafshi, je jure par mon âme qu'il n'y a pas de miracle plus grand que celui-ci, qu'on a encore un peuple juif qui existe aujourd'hui. Plus grand que tous les miracles sortis d'Égypte. La manne, la mer fendue en deux, tout ça, c'est rien. Comment se fait-il que nous survivions en exil ? Qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. À la fin, eux disparaissent, nous on est là. À qui j'ai parlé aujourd'hui dans mon bureau ? Avec toi, Raphaël, sur l'Iran ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Rabbi David. Alors, le beau-père de Raphaël est allé voir Rabbi David. Alors, qu'est-ce que vous pensez sur l'Iran ? Il lui a dit, nous sommes certains que rien ne nous arrivera. Que Dieu nous protégera. J'ai répondu, mon beau-père aussi. Mon beau-père, il a 80 ans, Blainara. Il me dit déjà, 3-4 ans, je ne comprends pas. Il n'a pas été à l'école, un peu d'histoire. Tu prends le peuple juif depuis 3500 ans, tu regardes. T'as les Égyptiens, après t'avais les Cananéens, après t'avais les Syriens, après t'avais les Assyriens, les Irakiens, après t'as eu les Perses, après t'as eu les Grecs, après t'as eu les Romains, après t'as eu les Byzantins, après t'avais les Croisés, après t'as eu l'Inquisition. Tous les pays d'Europe, ils ont fait la guerre, que ce soit la France, l'Angleterre, la Russie, le machin, tout ça, et Hitler, et Staline, et tous ratatinés. Et nous, sans armée comme ça pendant 3500 ans, on est toujours là. Lui vient, moi, je vais, comment il dit, mission numéro 1 de la révolution iranienne et islamique, l'anéantissement d'Israël. Réfléchis un peu. Est-ce qu'il y a un juif au monde qui connaît un peu l'histoire du peuple juif, qui est attaché au peuple juif, qui pense qu'on va disparaître ? Jamais. Pour nous, c'est évident. C'est intéressant de voir comment Chani va faire ce coup-là. Alors, c'est pas qu'il faut être trop pépère. On doit prier, on doit crier à Chani. Ça, c'est attention. On doit prier et crier à Hachem. Mais comme Israël survivra, on n'a pas la moindre ombre d'un doute. C'est évident, évident. Et même à la Shoah, les grands rabbins le savaient très bien. Bien qu'ils voyaient qu'une destruction terrible. Néanmoins, Hachem, on est là. Eux ont disparu. On est bien là.
Ah, même s'il est infini et qu'il connaît la fin tout le temps, Hachem, est-ce que ça lui arrive de changer en cours de route.
Bien sûr, ça change sans cesse. Ça change sans cesse. Regarde.
Mais il peut se chauffer au dernier moment et dire finalement pas de vie ou là.
Bien sûr. Bien sûr. À moins qu'il y ait la deadline. Il a donné une deadline. S'il ne veut pas la changer, mais vu qu'il se connaît lui-même, il sait très bien qu'Hachem il voit le futur de lui-même aussi, d'accord. Donc si Hachem décide maintenant, ça c'est la deadline, il ne va pas la changer. Parce que s'il la change, il saura très bien à l'avance qu'il va la changer. Tu me suis ?
Et des fois, il change des choses.
Mais par contre, il peut changer. Je te donne un exemple de cette année. Ramchan Kanievski, qui est un des grands de ce monde, qui a toute la Torah, il a plusieurs chavruta tous les jours avec des bahourim, des gens non mariés. Il a un chavruta de Ponovitch américain depuis quelques années. Et toujours à Pessah. Et au Emin Oraim, ce garçon rentre chez ses parents à Chicago, passer là-bas les fêtes. Cette année, au mois de Elul, sans que le garçon ait demandé quoi que ce soit, Rebhaim lui dit, tu rentres pour les Hagim. Il dit, oui, quand même. Cette année, tu restes. Il ne faut pas que tu rentres. Sous-entendu, ça va barder. Quoi. Tu restes ici. Nous tous, on s'attendait à ce que ça pète. L'Iran, machin, tout ça, c'était... Il n'y a rien eu. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pépère, tout va très bien dans le meilleur des mondes. À Sukkot, la femme de Reb Chaim décède. Batsheva. Zechat Sadek Levacha. Un mois plus tard, un grand Askan, un grand monsieur qui fait beaucoup de misot ici dans le monde orthodoxe en Israël, rentre chez Reb Chaim, au Shabbat, avec une délégation de quelques rabbins, et pose une question. Il dit, comment ça se fait qu'il y a eu tous ces malheurs ? Parce que, non seulement ma chère n'est pas venue, mais qu'est-ce qu'on a dégusté ? On sait que lorsque Hachem, il y a des décrets durs sur Israël, alors des fois, pour commuter le décret dur, il y a des grands tzadikim qui partent à la place. Et en 2-3 mois, tu as eu une épidémie. Baba Lazar qui est assassiné, la veille de Rosh Hashanah, la mort de Ungevar, monsieur, un grand tzadik, un grand chacham qui était dans la Shoah, la femme d'Abraham Kanievski, le Rosh Yeshiva de Mir, Nathan C. Finkel, il y avait un grand Rosh Yeshiva aussi américain, un certain tzadik, Sarah le Rav Geffen, comme ça, tac, 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 j'en oublie. Après, il m'a répondu, Hachem Soger Heshbon. Hachem, il est en train de fermer les comptes, de régler tous les comptes les deux dernières minutes, il est en train de tout fermer. Ça signifie que ma chère doit venir, comme ça pose la question le rabbin. On répond, on n'est pas des prophètes. On n'est pas des prophètes. Pourtant, il a dit à son élève, à son ravouta, de ne pas partir. À mon avis, il a vu que ça allait, oui, péter. Ça, il a dit à son élève de ne pas partir. Et en dernière seconde, Hachem a tout changé. Sur ça, dire Ibrahim, on n'est pas prophète. Moi, je peux me tromper. Je me suis trompé, sous-entendu. Ça, c'est moi qui dis, il n'a jamais dit une chose pareille, d'accord, mais je racole les bouts. On n'est pas prophète. Un prophète, s'il dit une prophétie et ne se réalise pas, on doit le tuer. Aujourd'hui, il y a des grands tzadikim qui ont Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ce n'est pas infaillible. C'est faillible. Parce que ce qu'il voit, le type de Ruach HaKodesh, est vrai. Mais c'est vrai maintenant. Demain, ça peut changer. Un fait tchouva. Un tzadik est décédé. Rien que ce mérite-là, des gens qui font tchouva et des tzadik qui sont décédés, ça peut tout changer. Le futur qui était prévu.
Toute la chaîne du peuple juif. Tout le monde est lié, même si on
tout monde est lié.
En Chine, au Portugal,
tout le monde est lié.
Moi, je fais un...
Absolument.
Un
tout le monde est lié.
Ah, qui fait une. Il est super infaillible. Il est super défectueux, ce Ruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? Moi, je vois en direct ce qui se passe en Chine, là, je ferme les yeux 2 secondes, je vois, ah, il y a quelqu'un qui va faire une bêtise, il faut que j'envoie quelqu'un.
Ruach HaKodesh, c'est un esprit saint qui permet aux gens de voir des choses que nous, comme un des mortels, ne voit pas. Il voit d'habitude très très bien. En tout cas, il voit dans le présent, ça c'est clair. D'accord, il peut savoir tout vraiment très bien. Dans le futur, il le voit aussi, très clairement. Mais le futur peut changer, c'est ça que je veux te dire. Il y a un tic qui a changé, et ça change. Donc lui, maintenant, on va voir ce qu'il voit d'après le présent de maintenant. Si c'est Hachem qui ordonne à un prophète de dire, demain, ça sera comme ça, c'est Hachem. Hachem, c'est ce qu'il dit. Hachem, il voit le futur mieux que Ruach HaKodesh. C'est lui le grand gestionnaire de tout. Ruach HaKodesh, c'est un don de clairvoyance, mais il est faillible. Il est faillible, c'est très clair.
Tous ces graves qui décèdent comme ça, ils n'ont pas le mérite de voir Mashiach.
Ils n'ont plus grand mérite. Ils verront, d'abord, par cela, ils protègent Am Israël. Ensuite, ils seront en première loge, depuis là-haut. Parce que toi et moi, on sera où? Dans la cave. Il y a les bombes, les machins, les sirènes. Eux-mêmes, ils prennent le missile Zip et le renvoient sur la tête d'Ahmadinejad, d'accord? On va voir le missile Zip, faire que la bombe atomique va partir comme ça, filmé par Internet, par le monde entier. Je ne sais pas comment il y aura ce qu'il y aura, mais ils seront en première loge. Ils seront en première loge, c'est évident. Oui.
Faudra déconseiller aux gens d'aller voir les kabbalistes qu'on va voir à Kodesh.
On déconseille?
Parce que ça ne sert à rien, vu que l'avenir va changer.
Ça dépend pourquoi tu vas voir. Prendre une bracha, c'est toujours bien. C'est des gens qui sont sains. Prendre un conseil pour... Des fois, oui, des fois, non. C'est pas infaillible. Nous, j'ai fait souvent le cours sur ce sujet. Quand on veut, on pose une question, on va voir un chacham. Pas un quelqu'un qui a Ruach HaKodesh ou un kabbaliste. Parce qu'un chacham, il est beaucoup plus proche d'Hachem. Et sa réponse est beaucoup plus infaillible qu'un kabbaliste ou quelqu'un qui a Ruach HaKodesh. C'est clair et c'est comme ça.
Vous pouvez compter sur le bout des doigts, sur le Ruach HaKodesh quand même, il n'y en a pas des milliers. Il y en a des centaines.
Je ne suis pas au courant, parce qu'il y a ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas.
Ceux qu'on connaît, il y a des
milliers. Sur une main.
Une main.
Ouais.
Et c'est Vadaï, on l'a dit, c'est sûr. C'est...
Il y en a deux, c'est clair, Ruach HaKodesh. Reb Chaim, Ruach HaKodesh, c'est clair comme l'eau de source. Et Rabbi David, c'est les deux grands que je connais qui ont Ruach HaKodesh. Mais ils sont très beaux, très bien. Mais sur des choses très personnelles, très voilà. Il y en a qui est venu voir Rabbi David avec une lettre. Il a écrit tout un texte, voilà, il est allé à Yeshiva, il hésite. Il y en a qui des rabbins qui lui disent maintenant, encore étudier 1 ou 2 ans, ou il y en a d'autres qui disent, non, de se marier maintenant. Alors qu'est-ce que le rabbin dit ? Mieux vaut se marier, et quitte à moins tituler après parce que je serai déjà avraire, le soir je rentre à la maison, ou rester encore à l'Eshiva ? Non, c'est ce que je dis, voilà, c'est trois phrases. Alors le rabbin a fait, quelle est ta question ? Marie-toi. Il a, marie-toi. Alors, il a le temps de lire. C'est un exemple. Mon élève, Michael Ifrach, aujourd'hui c'est un rabbin assez influent à Paris. Il y a 2 ans, je lui ai dit, allez, dégage, fini. C'est moi qui l'ai envoyé en France il y a 10 ans. Je lui ai dit, allez, reviens en Israël, machar, il arrive, fini. Et je lui fais la déballe, d'accord. Bon, il commence à hésiter. Je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, tu viens dans un mois en Israël, va voir ton rav, son rav, c'est Rabbi David. Pose la question. Et alors, c'est Rabbi David. Rabbi David ne peut pas le recevoir parce qu'il vient avec une délégation, il vient avec tous ses élèves, ils font un voyage en Israël. Donc, David David le prend 1 heure pour eux, chacun, il leur parle, il est très très sympa. Là, ce coup-là, les deux fils du Rav Mordechai Eliyahu sont venus voir Rabbi David juste après un mois après que leur père Mordechai Eliyahu Zatzal est décédé. Donc Rabbi David a dû s'occuper d'être avec les deux fils. Surtout vers Michael, je suis désolé, j'ai les deux, je ne peux pas être avec toi. Pour ta question, si Paris ou Israël, tu restes à Paris pour le moment parce que tu as beaucoup de travail à faire là-bas. Il n'a même pas posé la question. Et une autre fois, me raconte aussi Michael. Vu que les gens savent qu'ils vont voir Rabbi David, ils ont une liste, Refoua, Shema, machin, tout ça. Alors ils donnent tous les listes, tous les noms, machin, alors leur a fait les bénédictions. Après, il lui dit, ah oui, il y a ma soeur aussi, elle a divorcé depuis plusieurs années, elle passe au marié, une bracha. Il dit Tamar Bat Rachel. Non, c'est Hana Bat Rachel. Ah oui, je me suis trompé, Hana Bat Rachel. Bon, comment t'appelles ça ? De là dire maintenant le futur, qui, quoi, comment, ça c'est trop grand, ça dépend, c'est Hachem par rapport à Israël et ça change toutes les secondes.
Et ces gens-là, ils ont étudié des...
Comment ils ont fait pour devenir saints? Tu veux la méthode?
Est-ce qu'il y a des Baal Tshuva dans ces gens-là? Il y a des Chozer Tshuva?
Je connais un Baal Tshuva qui est à Ouar HaKodesh.
Chozer
Tshuva. Alors ces gens-là dont je te parle, Reb Chaim et Reb David, ces gens qui sont saints depuis le ventre de leur mère, Kadosh, 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 qui sont descendants de gens énormes. Abraham Kanev, qui sont passés le Stipler, qui lui aussi avait le Roi Kodesh. Du feu.
Genre, il se parlait de chambre à chambre.
Sûrement. Et Rabbi David, c'est le fils de Rabbi Meir. Rabbi Meir Bouchatzera, qui lui est Mashiach. Un homme d'une pureté extraordinaire, d'une sainteté inimaginable. Fils de Baba Salé. Arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov. Toi et moi, on va se rhabiller. Laisse tomber. Mais néanmoins.
Et Rabbi Meir, il en a eu 10 ou 12 des enfants. Pourquoi c'est juste Rabbi David ? C'est le roi Kadosh. Plus Rabbi David.
C'est... Peut-être qu'il y en a d'autres, on ne connaît pas. Que des grands connus, il y avait Baba Lazar. Le roi Kadosh, c'est vrai. Bon, Rabbi David, ouais, maintenant, comment ils font ces gens-là ? Eh bien, c'est pas que tu as reçu ça, puis c'est tout. Ils bossent. Je comprends que ces gens-là, ça n'existe pas pour une nuit aller dormir. Ils étudient la Torah toute la nuit. Et ils jeûnent jour et nuit, donc ils jeûnent, ils regardent jamais des femmes, ils sont entourés jour et nuit. Fais comme ça dans un an, viens me voir, tu seras aussi, tu auras un petit quelque chose de bien.
Dieu lui donne le roi Kodesh pour aider des Bahourim qui veulent savoir s'ils se marient ou pas, et pourquoi il n'a pas aidé à prévoir ce qui allait lui arriver à Babayazar ?
Babayazar, ça va très bien. Babayazar, ça va très bien. Babayazar, ça va tout à fait.
Il s'est préparé.
Mais bien sûr, ça va très très bien. 2 semaines avant, on l'a pris en voiture à une bar mitzvah. Il a dit à son neveu, il a dit, son cousin, je ne sais pas, un type qui est venu en voiture, il a dit, tu sais, mourir à Kiddush Hashem, c'est pas seulement comme Rabbi Akiva, que les Romains l'attrapent et le déchirent en petits morceaux. Non, tu peux être assis sur ton fauteuil, quelqu'un vient avec un poignard, et comme ça, tu mourras à Kiddush Hashem aussi. Et durant les 2 semaines avant de mourir, il étudiait un livre qui a été écrit 30 ans auparavant par un rabbin ashkenaz qui s'appelle Pekudat El-Hazar. C'est très intéressant. Pekudat El-Hazar, l'ordre de El-Hazar, qui parle des lois de comment mourir à Kiddush Hashem. C'est beaucoup de, même dans nos synagogues, ils l'ont donné avant, ce truc. Un gros bouquin comme ça, sur toutes les lois, comment mourir à Kiddush Hashem. Et son shamash, ça fait 30 ans que c'est son shamash, de Rabbi El-Hazar. Il a raconté que des fois en 30 ans, et des fois il est fatigué, il n'en peut plus, c'est 8 heures à recevoir du monde comme ça, des fois alors il prend, ça arrive rarement, mais il prend un petit congé, il va dormir 1 heure dans la chambre à côté. Il s'est remplacé par des shamashim plus jeunes. Il n'a pas compris ce même soir, première fois de sa vie, où Baba Lazar lui dit, je vois que tu es un peu fatigué, va te reposer. Il ne reste plus que 8 personnes à faire passer. En fin de soirée, il dit, tiens, va te reposer, fais-toi remplacer par le plus jeune. Et là, il s'est fait poignarder. Le jeune, il a dit après au vieux, heureusement que c'était pas, t'aurais vu ça, tu serais mort de crise cardiaque. Rabbi Eliezer, il a vu, le type, mon chat, je vais voir ça, il va crever sur place. Donc, bien sûr qu'il savait. Aucun doute là-dessus.
Il a pris une disposition pour éviter ce drame.
Hein ?
Rabbi Eliezer a pris une disposition pour éviter ce drame. Parce qu'il pensait que c'était réellement comme ça. C'était
mais
comme
quand. Ça, c'était... Alors, je raconte une autre histoire, celle de Rabbi David Yudayov, qui était le gendre de Baba Salé. Ça, c'est l'histoire de son fils. On est famille quelque part. Par ma mère, je suis Moussaïov, Moussaïov Yudayov, c'est la même. Il m'a raconté que le fils dormait au salon. Et un beau jour le matin, vers 7h moins quart, comme ça, on tape à la porte. Et son père va à la porte. Et pendant 20 minutes, il y a un monsieur là-bas. Il ne fait pas rentrer, mais il discute. Et il entend que son père dit toujours oui, 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 comme ça pendant 20 minutes. Bon, puis à un moment, il part. Le même jour, son père dit à son fils, tu sais, mon fils, il y a quelques années, il y a eu un décret très grand sur Israël. Et des anges sont venus en rêve à... Je me souviens bien, c'est Rabbi Ephraim HaKohen. Je me souviens plus de tous les noms des trois personnes dans cette histoire-là. Et bien, Rabbi Ephraim HaKohen, qui est un des grands kabbalistes de l'époque, lui a dit, Rabbi Ephraim, il y a un grand décret sur Israël, dans le ciel, ils ont décidé que tu pars pour expier cette accusation sur Amisraël, comme ça, aucun juif sera touché. Ephraim a dit, mais c'est dur pour moi, j'ai encore des enfants à marier, etc. Allez voir Rabbi Yaakov Sofer. Rabbi Yaakov, c'est celui qui a écrit le bouquin Kafa Chaim. Rabbi Yaakov Chaim Sofer. Chaim Yaakov Sofer. Et ils sont partis en rêve, ils sont venus le voir aussi. Il a dit, moi, j'ai encore deux tomes à sortir, c'est fini. Pourquoi vous venez mal? Laissez-moi finir mes deux tomes. Allez voir plutôt notre ami, le troisième, dont j'oublie le nom, on va dire Rav Shrem. Le matin, ils viennent à la prière. Rabbi Ephraim HaKohen, il voit Rav Sofer. Ah, t'es pas là? Ah, t'étais là? Ah, tu les as envoyés chez Rav Shrem? Après la prière, Rav Ephraim, il dit, messieurs, nous annonçons le décès de notre ami, le Rav Shrem, on va maintenant à Salévaïa. Alors que personne n'est encore au courant. Et comme ça, il s'est avéré qu'il était mort durant la nuit. Cette histoire raconte Rabbi Yudayov à son fils. Quelques jours plus tard, il raconte encore une fois toute cette histoire-là. Et 10 jours plus tard, de nouveau encore cette histoire. Papa, tu as fait en 10 jours, tu m'as raconté 3 fois l'histoire. J'ai compris, pourquoi tu me racontes ça? Pour que tu saches, mon fils, quand du ciel on demande à quelqu'un de partir, on ne refuse pas. Si on demande du ciel à quelqu'un, donne ton âme pour Am Israël, on ne refuse pas. 2 jours après, Rabbi Yudayov est décédé. Et le monsieur qui était venu à l'entrée lui parler est venu à la Shiva pour dire « Sachez que nous savions qu'il y avait un décret sur Israël qui a été un décret très dur sur Am Israël. » Et Rabbi David Yudayov a décidé, a accepté de partir pour expiation de Am Israël. C'est très très courant. Très très courant. Le Rav Menachem Pinchas Alter de Gour. C'est l'Admor de Gour. En 1998, durant toute cette période-là que nous sommes maintenant, toutes les semaines à Jérusalem, il y a un bus qui éclate. Attentat, 20 morts, 40 blessés. Toutes les semaines. C'était la panique monstre. Mes enfants, plus personne n'osait prendre le bus. Dans ces crétins de médias à la radio, on interviewait les gens en train de hurler. Enfin, la panique dans le monde. On arrive à Pourim. Pourim, qu'un jour de joie. Alors, Menachem Pinchas Alter de Gour pleure. Pourquoi pleurer, c'est pourri. Il dit, comment ne pas pleurer? Regarde tous ces attentats qui se passent, c'est terrible. Il faut que je fasse quelque chose pour que ça s'arrête. Assez Chassidim vient le voir, le dico d'Arav, Mazal Tov, j'ai un fils qui est né, demain c'est la brite. Je viens de prendre conseil chez l'Arav, comment appeler mon fils? Je ne te dis pas maintenant, mais demain déjà tu sauras comment l'appeler. Le soir même, le Admor de Gour dit à sa femme, shalom. Shalom, shalom. Il va dormir, il ne s'est plus réveillé. Il est mort dans son sommeil. Lendemain, le chassid a appelé son nom, le fils, au nom du Admor qui venait de décéder. Et dès ce jour, messieurs, pendant un an, au moins un an, il n'y a plus aucun attentat en Israël. Terminé.
Il décide quand est-ce qu'il part?
Je ne sais pas comment ça se passe, mon cher ami. Je serai là-bas.
Que lui, quand il veut, il communique. C'est pas juste.
C'est des gens qui communiquent. Baba Salé, comment il parlait? Baba Salé, alors, Mon Chavruta, quand j'étais jeune, pendant 15 ans j'étudiais avec un Chavruta, d'accord? C'est mon Chavruta et mon Rav, on peut dire. Lui, quand il était jeune, il étudiait à Yeshivat HaNegev, la Yeshiva qui était à Netivot. Yeshiva Ashkenaz, mais beaucoup de Saradim qui étaient là-bas, à Netivot. Et son Chavruta, lui, il avait une voiture. À Netivot, à l'époque, il y avait peut-être 2-3 voitures dans tout le bled, d'accord? Baba Salé habitait à Netivot. De temps en temps, il demandait service à ce garçon qui a une voiture de le prendre à des endroits. Un jour, le conducteur revient, il dit à mon Chavruta, Je suis épaté. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Baba Hassem m'a demandé de le prendre à son fils, chez son fils, à Ashdod. On est parti en voiture. On arrive en bas de la maison à Ashdod où habite Rabbi Meir, le fils de Baba Salé. Baba Salé me dit, va chercher mon fils, dis-lui que je suis là. En attendant, Baba Salé se met à la place du conducteur. Non, il reste à sa place devant. Baba Meir vient, se met à la place du conducteur, et moi je me mets derrière. Et les deux sont devant moi, comme ça, et pendant une demi-heure, il a fait la bise, les deux sont comme ça, rien, pas un mot. De temps en temps, un petit grognement. À la fin, ils font la bise, Rabbi Meir repart, et on repart, on est revenu. Comment t'appelles ça, toi? Voilà. Une suite à l'histoire, je n'ai pas le temps de la raconter. Mais bon, vous voulez la suite de l'histoire? Je n'ai pas le droit de prendre ce temps-là d'Avrechim. Bien à dire demain, racontez-moi, je vous ferai l'histoire très très belle. Baruch Adonai, Amen.